Et donc si tout le monde pouvait se faire coacher professionnellement, ben, ça serait certainement un positif pour le monde et ça aiderait beaucoup de gens. Donc comme j'ai quelques compétences en effet entrepreneuriales, quelques compétences dans le domaine de la tech, et que par contre d'un point de vue coaching, j'étais pile dans ce que j'aimais faire et ce pourquoi je suis a priori très bon, je me suis dit bah, pourquoi pas proposer une nouvelle approche qui en fait fait converger toutes ces compétences que j'ai pour pouvoir le proposer à beaucoup plus de monde.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation Leaders, le podcast qui donne la parole aux leaders de la tech et d'innovation. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans ce podcast sur notre site innovationleaders.live. Pour être sûr de ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Allez, installez-vous confortablement et bonne écoute. Je vais vous emmener dans un monde que j'ai envie de creuser depuis longtemps, l'univers du coaching. Le coaching est un terme qu'on entend beaucoup ces derniers temps, un univers perso qui attise pas mal ma curiosité. Je pensais au départ à un phénomène de mode, composé de psys amateurs qui s'improvisent coach, on en voit de plus en plus, et qui cherchent à nous vendre du rêve dans des phases où on se sent faible ou fragile peut-être. Et j'ai cru un instant que c'était réservé aux incompétents. Jusqu'au moment où j'ai réalisé que l'essentiel des invités que j'avais à ce micro, tous aussi brillants les uns que les autres, ont pour la plupart recours ou ont eu recours à des coachs. Et ça m'a interpellé. Et petit à petit, j'ai réalisé en fait qu'on était tous des incompétents dans un ou plusieurs domaines. Et à partir du moment où on veut progresser, ben on se rend compte de nos gaps. On a envie de progresser du plus novice au plus successful d'entre nous. Et le coach, visiblement, est là pour ça, pour nous aider dans ces challenges. Et quand j'ai croisé Adrien Falcon il y a quelques mois, un des meilleurs coachs de la place qui tente avec Wave.AI de marier coaching, technologie et entrepreneuriat, je me suis dit que ça pouvait nous donner un bel épisode. Je vais pouvoir comprendre enfin ce que c'est que le coaching et essayer de comprendre en quoi la tech peut révolutionner l'approche du coaching traditionnel. Salut Adri, merci de passer au micro d'Innovation Leaders.
Salut Jeff, merci de me recevoir, je suis très heureux d'avoir ce moment avec toi.
Bon, on va faire une masterclass sur l'univers du coaching et on parlera bien sûr de Wave dans un deuxième temps sur ce que tu mets en place depuis ces derniers mois, voire dernières années. Content de t'avoir, t'as souvent été dans l'ombre, souvent discret et mesuré dans ta communication d'ailleurs. Je suis content de pouvoir partager au plus grand nombre ton projet et les coulisses de ce sur quoi tu bosses depuis tout ce temps. Beaucoup ne te connaissent pas d'ailleurs, et j'aimerais que tu nous parles un peu de ton background. T'as 43 ans, toi t'as 3 enfants, si je dis pas de bêtises, ouais. T'es basé à Aix, en Provence, et tu partages ta vie entre Aix et Paris, entre autres, parce que on va vite voir que t'es connecté avec de plus large latitude. Et avant de te lancer dans Wave, toi, t'as eu un parcours assez impressionnant, une montée en flèche assez rapide. Je vais te laisser raconter un peu cette évolution, un parcours dans lequel t'as eu plusieurs vies, en fait.
Ouais, c'est exactement ça, plusieurs vies, impressionnant, je sais pas, dense, certainement. Donc, comme tu l'as dit, moi, j'ai 43 ans. Dans mon parcours professionnel, moi, je le découpe quand je le raconte en trois phases. Donc, j'ai un premier bout de ce parcours entre mes 24 et 30 ans où après avoir fait le SCP, un petit passage à Wharton, j'ai fait des choses assez classiques. Donc je suis rentré dans la banque, dans le conseil en management, dans des départements stratégie de grosses boîtes industrielles, et j'ai fait ça un certain temps. Ça m'a stimulé intellectuellement, mais fondamentalement je sentais que j'avais envie de m'investir ailleurs. Et à l'âge de 30 ans, j'ai eu un épisode de vie assez dramatique qui m'a fait prendre conscience que la vie était courte et que j'avais absolument envie d'investir mon temps de vie dans des choses qui me passionnaient. Je suis fondamentalement un créatif, un entrepreneur dans l'âme. Et donc, c'est le deuxième bout de mon parcours où, entre mes 30 et 37 ans, je suis rentré vraiment dans le monde de la tech. Au tout départ, sans maîtriser du coup et du tout ce sujet de ce que c'était que de monter une start-up, de ce que c'était que de le faire dans un milieu technologique. Donc j'ai eu diverses aventures là-dedans. Il y en a une à laquelle en effet on me raccroche souvent parce que c'est la plus connue et qu'elle a fait beaucoup de bruit, c'est Deliveroo. Donc on en reparlera peut-être dans ce moment ensemble, mais où je suis rentré en étant le 20e employé de la boîte quand on était 20 et je suis parti quand on était 2000. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans cette phase-là. Et notamment, ben, moi, ce que ça m'a permis de vivre et de contribuer, c'est ce qu'on appelle un scale-up. Donc, j'ai fait ça un certain temps. Et j'en suis parti ensuite, on en reparlera peut-être aussi pour des raisons avant tout personnel, et qui a déclenché un troisième moment de vie dans lequel je suis toujours, notamment avec Wave, mais qui est en effet d'entrer dans cette posture de coach, de coacher un certain nombre de CEO, notamment au tout début, seul, en indépendant. Et puis ensuite, au fil de mon chemin et pour différentes raisons dont on reparlera, j'ai eu envie en effet de rentrer dans un projet qui permettrait de démocratiser le coaching professionnel a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde, parce que ça me semble être une pratique essentielle et que je ne voyais pas des solutions qui permettaient de l'adresser comme ça. Donc, c'est ça mon parcours professionnel.
Bon, et ben on va les détailler chacune. On commence par Deliveroo. Tu as un rôle assez canon en ce moment-là. Ça a duré combien de temps, toi, ces années Deliveroo?
Ça a duré un peu plus de 3 ans. Donc, 3 ans à cette échelle de scale-up, ça en vaut beaucoup plus en termes d'années. Mais ouais, 3 ans où on était 20, je suis parti, on était 2000, on était dans une ville, Londres, je suis parti, on était dans plus de 10 pays, voilà, une boîte qui était valorisée un peu plus de 20 millions à une boîte qui était valorisée plus de 2 milliards.
Ouais, et comment on fait pour se trouver au bon endroit, au bon moment, comme ça, qu'est-ce qui t'a amené chez eux et qu'est-ce que tu crois qu'eux ont pris et pourquoi est-ce qu'eux t'ont amené dans cette aventure-là à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il y avait dans ton profil qui les
Ah bah, il n'y a pas de réponse toute faite. Celle que je peux t'apporter pour ce qui me concerne, c'est que il y a des hasards heureux. C'est la sérendipité qui se crée. Donc, comme je te le disais, moi, j'avais travaillé sur différents projets avant qui n'avaient pas foncièrement fonctionné, mais qui avaient eu pour mérite de me faire un peu connaître dans le milieu entrepreneurial, notamment en France, et auprès de certains investisseurs. Et quand j'ai décidé d'arrêter mes projets, il y a un certain nombre de fonds qui m'ont contacté pour me parler d'autres projets dans lesquels ils pensaient que je pouvais avoir un rôle à jouer. Et il y en a un dont on m'a parlé, qui est celui-ci. Donc, j'ai rencontré Will, qui était le fondateur de Deliveroo, qui m'a parlé de ce projet incroyable qu'il avait et pour un rôle qui était celui de lancer finalement le premier pays à l'international. On s'est rencontrés. J'ai trouvé que c'était quelqu'un d'incroyable, qui avait une vision extrêmement puissante sur ce qu'on pouvait proposer pour changer, voilà, une habitude sur un mode de consommation que je trouvais très intéressant, avec une complexité logistique, technologique que je trouvais fascinante et une solidité, vu les fonds qui étaient déjà derrière, qui me rassurait d'une certaine manière sur ce que pouvait faire ce projet, l'intention qui était celle de ce projet à terme. Et donc, tout simplement, dans une rencontre, dans une discussion, on s'est rendu compte que ça pouvait marcher entre nous. Et puis, après, les choses, c'est pas parce que tu les dis, c'est parce que tu les fais. Donc, tout simplement, en commençant à travailler ensemble, y a certaines choses que j'ai dû déclencher d'une certaine manière qui font que j'ai eu ce rôle qui a grandi au sein de cette entreprise.
Est-ce que les années qui suivent, qui vont être très marquées par le coaching et par du coup la prise de recul un peu sur toi, sur le monde pro, ce passage chez Deliveroo t'a orienté indirectement sur des thématiques managériales, organisationnelles que t'as appréhendées et qui t'ont donné envie de les creuser après? Il y a eu des learnings forts là-dessus?
Absolument, mais c'est même l'essentiel, j'ai envie de dire, parce que quand tu rentres dans une boîte comme Deliveroo, t'inventes rien en fait. Surtout à mon niveau, il y a un modèle qui est là, qui est existant. Ton rôle, c'est quand tu lances un pays international, c'est de le répliquer à l'identique. Donc, dans ce rôle, à cette étape, mon rôle n'était pas d'inventer, il était d'exécuter. Mais comment t'exécutes bien? T'exécutes bien parce qu'à un moment donné, t'arrives à embarquer une équipe. Et donc, en fait, c'était avant tout un rôle de leader, mais surtout dans une posture, sans le savoir à l'époque, et c'était sans mettre ce mot-là, mais qui était déjà finalement une posture de coach. C'est-à-dire, comment je fais pour organiser une équipe et faire en sorte que les talents qui font partie de cette équipe, en fait, se déploient au maximum de ce qu'ils peuvent. Et en effet, avec une dynamique qui est très particulière à ce genre d'entreprise, parce que quand ça va très très vite, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, et donc c'est exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire d'être dans une posture finalement de coach interne pour faire en sorte que ceux qui étaient en charge, notamment des problématiques opérationnelles, puissent déployer le maximum de ce qu'ils avaient à déployer à cette époque pour des niveaux, quoi.
Ok. Ça a duré 3 ans, c'était malgré tout assez rapide. Pourquoi est-ce que ces années s'arrêtent? Pourquoi cette expérience?
Il y a deux raisons très simples. La première, c'est une raison personnelle qui fait que je ne pouvais pas et ne voulais pas rester. Tu l'as dit, j'ai 43 ans, j'ai 3 enfants. Et donc, j'avais déjà 2 enfants à l'époque. Mais surtout, j'ai un petit garçon qui est très lourdement handicapé. Et donc, à un moment donné, il y a un choix de vie que j'ai dû opérer parce que je pouvais pas continuer à ce rythme-là. C'est-à-dire travailler quasiment 7 jours sur 7, beaucoup, voyager énormément et tenir en fait ce qui était mes essentiels dans ma vie personnelle. Et donc, à un moment donné, ça ne matchait plus. Donc, j'ai décidé de partir pour cette raison-là. Puis, il y avait aussi une raison qui était que j'avais pas envie de rester parce que j'avais une envie professionnelle qui était différente. Et donc, justement, ce besoin, moi, que j'ai, et ce qui m'a toujours animé, ça a été d'être tourné vers les gens, de faire en sorte que ceux qui travaillaient avec moi, pour qui je travaillais ou qui travaillaient pour moi, soient au maximum de leurs compétences, au maximum de leur développement. Et donc, encore une fois, ça, c'était une posture de coach. Et donc, sans le savoir, mais en ayant toujours cette envie d'être beaucoup plus tourné vers l'humain, j'avais envie d'investir ce sujet d'une autre manière. Et donc, de me tourner vers un moment de vie, notamment professionnel, très, très différent, pour finalement mettre mon talent, ma compétence au service des gens et d'une manière très, très différente. Et donc, c'est comme ça que le coaching et ma posture de coach s'est naturellement déclenché.
Et tu as eu un break après ces années Deliveroo parce que c'est pas évident de ralentir le rythme après ces années un peu folles, où tu as enchaîné avec quelle rapidité sur ce nouveau job?
Moi je suis un passionné. Donc quand tu es passionné par ce que tu fais, la notion de temps, elle disparaît finalement, la notion d'effort, elle disparaît. Donc j'ai pas vraiment eu besoin de faire un break. Les choses se sont enclenchées, articulées d'une manière très très naturelle. Et où si tu veux, après être parti, j'ai pris du temps, oui, pour réfléchir à ce que je voulais, pour remettre le cadre personnel et familial dans le bon sens, comme j'en avais besoin, comme je le souhaitais. Mais en même temps, très rapidement, finalement, un certain nombre de gens qui me connaissaient de cette époque, notamment des fonds, sont venus me chercher et m'ont demandé si je pouvais aider un certain nombre de CEO, de cofondateurs dans lesquels ils avaient investi, et sans que ça soit très clairement défini. Est-ce que c'était une posture de mentoring, de conseiller, de coach? Le terme de coach n'était pas du tout employé, soit mentionné. Donc, c'était juste au départ, de manière très naturelle, une demande compte tenu du parcours que j'avais eu et de ce que les gens connaissaient de ce parcours, pour aider un certain nombre de personnes. Et ça, si tu veux, ça m'a pas demandé de faire un break, ça m'a pas demandé un effort particulier. Ça s'est fait très naturellement, progressivement, et au point d'en arriver, en effet, à en faire un métier à part entière et à m'investir d'une autre manière, notamment dans le projet Wave.
Tu avais déjà été coaché jusqu'ici?
Ouais, bien sûr. J'ai eu cette chance. C'est pas une chance que tout le monde peut avoir, mais si tu veux, moi, j'ai toujours baigné dans ce milieu du développement personnel et professionnel. Parce que ma mère est psy, mon père était coach professionnel, pas de formation, mais le devenait. Donc, c'est quelque chose déjà dans lequel j'ai toujours baigné, tu vois. L'introspection, le fait de prendre du temps pour se demander où on en est, vers quoi on veut aller, faire des choses qui ont du sens, en fait. Donc ça, c'est un premier élément, tu vois, ça fait vraiment partie de mon ADN. Puis ensuite, j'ai eu la chance, notamment dans la première partie de la vie professionnelle que je t'ai mentionné tout à l'heure, hein, quand j'étais en banque, en conseil, d'avoir en effet un coach professionnel live. Et ça m'a énormément aidé et c'est une pratique que j'ai répliquée. C'est-à-dire que dans les 15 ans qu'on suivit, j'ai continué à investir pour moi dans cette pratique-là. Donc, j'ai eu un coach professionnel, j'ai fait aussi, je trouve que c'est très sain de le faire, une thérapie personnelle. Et tout ça, en fait, si tu veux, c'est agencé et m'a nourri et fait partie aussi de ce que j'ai pu en faire dans ma propre pratique de coach. Mais tu peux pas raisonnablement avoir une posture de coach sans toi-même l'avoir été, quoi, sans toi-même avoir été coaché.
J'imagine. Et c'est marrant parce que on va en parler un peu, mais il y a le coaching que tu présentes qui arrive un peu naturellement et qui est presque plus un partage d'expérience. Mais toi, t'as quand même pris le sujet assez vite au sérieux, au point de te faire diplômer à l'INSEAD, Donc, à quel moment tu passes d'une démarche un peu peut-être artisanale, basée sur la bonne volonté, à un truc que tu prends au sérieux en te disant il y a peut-être besoin de formaliser les choses et d'amener un peu de méthode et de théorie et tout ça.
Alors, c'est une très bonne question. Je vais essayer d'être court dans ma réponse. Mais encore une fois, le premier élément de réponse, c'est de faire les choses naturellement et progressivement. Donc, au départ, on vient me chercher pour aider des CEO et des cofondateurs à grandir dans leur rôle et à faire grandir leur boîte. Et donc, encore une fois, c'est pas une posture très claire, très clairement, en tout cas, posée par ceux qui viennent me chercher. Est-ce que c'est du conseil? C'est-à-dire une posture où t'es plutôt dans une recommandation très, très claire? Est-ce que c'est du mentoring, qui est un autre type de posture? Donc, je rentre simplement dans un sujet avec un certain nombre de personnes et de grands dirigeants qu'on me fait rencontrer. Et j'y vais de manière très humble, simple, avec une question qui est de quoi tu as besoin. Et si tu veux, il y a au départ, dans les besoins qui sont exprimés, très souvent, il y a une problématique qui revient, qui est celle de dire moi, j'aimerais bien savoir comment on fait ça. Et en fait, je suis très vite sorti de cette posture, qui est une posture plutôt assez unidirectionnel, où on leur expliquerait ce qu'on peut faire. C'est une pratique qui est très très bonne, mais c'est pas ce que moi j'avais envie de faire. Et je suis sorti de cette posture en disant mais moi c'est pas moi qui vais te dire comment on va faire. Par contre, je peux te poser des bonnes questions et des questions orientées compte tenu de l'expérience que j'ai pour que tu trouves toi-même tes propres réponses. Et ça, en fait, c'est le début d'une posture de coach. Donc j'ai commencé à le faire avec ma propre manière de faire, mais en effet, comme je suis sérieux sur le sujet et que mon intention, ça a toujours été de faire le maximum de ce que je pouvais pour aider ceux que j'accompagnais, il y a un moment donné, je me suis rendu compte que c'était une posture de coaching et donc je m'y suis formé. Et donc, c'est là où j'ai décidé d'aller à l'INSEAD pour tout simplement continuer en tant qu'indépendant, l'indépendant que j'étais à l'époque, à agrémenter le meilleur des deux mondes, à savoir le monde du coaching tel qu'il existe aujourd'hui et d'apprendre ce que c'est, parce que tu peux pas bien le faire si tu pars pas de ce métier qui est ancestral en fait et qui est extrêmement riche et dense sans t'y former. Et en même temps, de commencer, parce que les gens que j'accompagnais avaient un ADN très très particulier, notamment des CEO de start-up, de CIA, B, C, enfin, et d'y agréger, de l'enrichir de choses que je pensais être nécessaires. Par exemple, de la data. Par exemple, un peu plus de méthodologie. Par exemple, un process, notamment, de discussion un peu plus structuré que ce qui existait à l'époque. Et donc, en fait, ça s'est fait vraiment très naturellement. J'ai commencé par pratiquer. Je me suis très vite rendu compte que la posture et la pratique que j'avais, c'était celle d'un coach. Donc, je me suis formé. Et en me formant, il y a petit à petit un certain nombre de choses qui ont convergé qui m'ont fait définir ma propre pratique.
Tu as été combien de temps coach à ton compte, j'ai envie de dire?
Alors, je l'ai été en fait, si tu veux, et je le suis encore d'une certaine manière pendant donc de manière très très intense pendant plus de 4 ans quasiment, et je continue à le faire de manière très très spécifique. Très très rare, et je le fais à travers Wave aussi, parce que on en parlera, mais c'est tout le sujet de nous, on développe une science du coaching, et donc je suis évidemment très impliqué là-dedans. Donc en tant qu'indépendant en 1-1 avec un certain nombre de CEO qui étaient en Europe, aux US, je l'ai fait quasiment pendant 4 ans à temps plein, quoi.
Tu peux nous donner quelques chiffres un peu qu'on mesure, parce que on parlait d'artisanal tout à l'heure, mais c'était quand même, t'étais quand même monté à un niveau de production quasi industrielle, parce que t'as coaché un paquet de monde. Tu peux nous donner un peu quelques chiffres qu'on se rende compte de l'activité que t'as réussi à générer pendant ces années-là?
Ouais, alors, je peux t'en donner peut-être 3 chiffres, mais c'était pas industriel, c'était toujours très, très qualitatif, mais encore une fois, quand je m'engage dans quelque chose, je m'y engage à fond. Et donc, en effet, j'ai coaché un peu plus de 200 CEO, coaché plus de 200 CEO sur un portefeuille qui était valorisé à un moment donné un peu plus de 5 milliards en Europe et aux US. Et le NPS, si c'est une mesure qui te parle, c'est le Net Promoter Score, c'est-à-dire la capacité, les gens que j'accompagnais, dans quelle mesure ils me recommandaient, il était de plus de 90. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que pour que tu arrives, vu l'exigence des personnes que tu accompagnes en face de toi, à avoir cette régularité et cette constance, c'est-à-dire qu'en effet, j'ai beaucoup travaillé derrière. Pas simplement en live avec mes clients, mais en parallèle, en amont, en aval, pour justement poser des concepts, des méthodos, une approche qui ne pouvait pas sortir comme ça du chapeau. Donc par la pratique et par une pratique intense avec toutes ces personnes que je t'ai citées, enfin ce nombre que je t'ai cité, c'est là où en effet ça m'a demandé beaucoup d'heures de travail. Mais je l'ai fait avec une intention qui n'était pas celle d'en faire autre chose que d'accompagner de manière extrêmement qualitative, en tout cas le mieux que ce que je pouvais faire moi, pour accompagner ces personnes au mieux que ce que je pouvais, quoi.
Ouais, clairement. Je vois pas mal d'approches différentes du coaching. On voit le coaching sur une thématique ou un sujet sur lequel on se sent limité et on a besoin de progresser. Il y a le coaching aussi où on est un peu plus, on va dire, moins orienté. C'est une démarche globale où on a besoin d'avoir un support et les sujets et les thèmes vont peut-être arriver dans le cours de la démarche. Il y a des coachings dans le cadre de changement de carrière, de réinsertion professionnelle. On peut aussi le voir et ça m'est arrivé moi par exemple de recommander à un membre de mon équipe de se faire coacher parce qu'on a identifié en tant que manager qu'il y avait des manquements. Donc ça c'est presque un coaching peut-être contraint ou en tout cas recommandé. Donc il y a des coachings volontaires, d'autres qui subissent peut-être la démarche. Il y a le coaching individuel, il y a le coaching de groupe, le coaching perso, et d'ailleurs tu as commencé toi en intro en disant que tu étais un coach pro, et après tu disais aussi que le mentoring était une démarche différente. Ce serait possible de définir les différents types de coaching ou c'est quelque chose d'assez vain finalement?
Bah écoute, je sais pas si c'est vain. En effet, c'est un monde très riche, très large. Peut-être que la bonne première réponse à t'apporter, c'est comment on définit le coaching. Le coaching, pour moi, il y a plein de définitions possibles. Moi, je m'en suis fait une définition au fil de ma pratique. Elle est très simple, c'est celle de dire que déjà c'est un besoin fondamental humain, c'est que on se développe jamais sans être un moment donné au contact de quelqu'un qui te fait grandir, et comme un athlète de haut niveau ou tu vois un musicien virtuose, à un moment donné là où tu atteins ton maximum, c'est quand tu te fais accompagner par un professionnel dont c'est le métier. Ok, et ce professionnel qui peut être un coach professionnel, on reviendra là-dessus. Il a pour intention, fondamentalement, de t'aider à déployer le maximum de tes capacités et de le faire, et ça c'est une autre part de ma définition qui est propre, en te supportant émotionnellement et en te challengeant intellectuellement. Donc à partir du moment où tu as ça comme principe, il y a plein de choses qui peuvent se faire, il y a plein de manières de prendre la position de coach. Moi en effet, celle que j'ai eue pendant très longtemps en tant qu'indépendant, ça a été celle d'un executive coach, donc ce qui est justement... une pratique réservée à une population finalement assez peu nombreuse, qui est celle des grands dirigeants d'entreprise. Et je l'ai fait un certain nombre d'années comme ça. Et progressivement, je me suis dit que j'avais envie justement de proposer du coaching professionnel. C'est-à-dire pas juste pour les exécutifs, c'est-à-dire c'est la même intention, c'est de te coacher professionnellement, mais pas simplement réservé à ceux qui sont tout en haut de l'organisation, mais à ceux qui sont... un niveau en dessous, deux niveaux en dessous, trois niveaux en dessous. Et pour aller au bout de la réponse et essayer d'être encore plus clair, dans cette posture de coaching professionnel, l'intention, en tout cas, qui a toujours été la mienne et qui est celle de Wave notamment, c'est de te coacher dans ton rôle. Donc, tu es coaché dans un rôle spécifique professionnel. T'es CEO, t'es product manager, t'es sales, peu importe. Et dans ce rôle-là, il y a des dynamiques qui sont un peu différentes. Il y a la dynamique de ton organisation, donc qui est une chose en soi et à regarder. Donc, il faut regarder aussi ce qui se passe dans l'organisation. C'est pas parce que t'es CEO que t'es ta boîte, bien au contraire. Donc, t'es CEO et t'es dans ton rôle de CEO, mais ta boîte, à un moment donné, ton organisation te dépasse. Il y a la dynamique qui lui est propre et qu'il faut adresser. Et puis, évidemment que dans ton rôle professionnel, il y a toute une partie de choses qui se passent au niveau personnel et que tu peux adresser. Et une manière de définir, tu vois, cette approche du coaching professionnel, c'est de te dire, je te coach dans ton rôle, en prenant en compte la partie personnelle et la partie organisationnelle, pour faire en sorte que, dans cet univers et dans ce contexte spécifique qui est le tien, on arrive à t'aider à débloquer ce que tu as envie de débloquer. Et un dernier élément de réponse, c'est qu'on peut le définir par ce que c'est, mais on peut aussi le définir par ce que ça ne doit pas être et ce que ça n'est pas. Et donc, ce que n'est pas le coaching professionnel, en tout cas dans ma vision des choses, c'est que c'est certainement pas de la thérapie, donc ça c'est très très différent. C'est-à-dire que quand tu rentres dans des zones personnelles, mais où il y a encore une souffrance, une blessure, là faut faire autre chose. Il faut aller voir un thérapeute, voire carrément un médecin. Et on n'est pas non plus dans une approche de conseil, c'est-à-dire que la posture de coach n'est pas de t'apporter une solution, c'est de t'aider à la trouver par toi-même en t'apportant des questions, des insights, de la data et en te guidant à travers ce chemin de réflexion. Est-ce que ça répond à ta question ?
Ouais, ça répond à la question. Sur la partie psychologie versus coaching, c'est clair qu'on le voit de plus en plus, cette proximité-là. Et moi, j'ai déjà discuté avec des, pas forcément des patrons, mais entre autres, mais des personnes qui disaient il faut absolument que j'en parle à mon coach, et j'avais l'impression que tu remplaçais coach par psy et ça faisait le même travail. Donc toi, ce que tu dis, la différence entre psy et coach, finalement, c'est quoi ? C'est qu'un psy va travailler pour le coup uniquement sur la partie perso ?
Non. Alors, oui, il faut absolument distinguer les deux métiers. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas qu'un psy c'est pas qu'un coach ne va pas travailler sur la partie perso ou que le psy ne va pas travailler sur la partie pro. C'est qu'ils vont travailler avec des outils différents et une posture très très différente. Et le besoin aussi adressé n'est pas le même. En tout cas, c'est mes mots, ma manière de le définir. Plein de gens pourront le définir peut-être d'une manière différente. Moi, je te donne ma réponse. Si je te prends une analogie, c'est quelqu'un qui serait blessé et qui aurait encore une blessure assez ouverte, ou en tout cas qui fait très très mal d'un point de vue personnel, vaut mieux qu'il aille voir en effet et qu'il fasse certainement un travail thérapeutique. Quelqu'un qui a une blessure mais qui est déjà cicatrisé et qui a besoin de travailler avec cette cicatrice dans un domaine professionnel, ben ça on peut le faire en coaching. Donc tu peux être par exemple avoir une blessure liée à, je sais pas, une problématique de confiance en toi, et ben tu peux adresser le sujet avec deux types d'approches, deux types d'outils. Ça dépend vraiment de là où tu en es dans cette blessure et surtout ce que tu as envie d'en faire dans ton cadre professionnel, si on parle purement de coaching professionnel.
Ok. T'as déjà refusé de prendre des, je sais pas comment tu les appelles d'ailleurs, des coachés,
des clients. Moi, je les appelle des clients parce que c'est un terme important, on peut les appeler des coachés. Oui, bien sûr, j'ai refusé de travailler avec des personnes et j'ai aussi parfois, à un moment, arrêté de travailler avec certaines personnes parce que le fit et le match ne pouvaient pas, en fait, ne s'avéraient pas être le bon. Et c'est très important quand tu construis et que tu travailles quand tu fais un travail de coaching, il faut qu'il y ait une vraie relation de coaching et qui part côté client. D'une coachabilité, c'est-à-dire d'un vrai besoin de transformation, d'avoir envie de progresser sur quelque chose. Parce que si tu attends que tout arrive, en fait, c'est pas ça qui va se passer dans le coaching. Ça demande un effort. Donc, il faut que le client soit prêt à le faire et ça demande un certain nombre de choses sur lesquelles on pourra revenir si tu veux. Et il faut que, en tant que coach, tu te sentes aussi en capacité de le faire bien. C'est vraiment une relation de travail très profonde où il y a la base, c'est la confiance, c'est la confidentialité, c'est la compétence. Et pour que ça se passe bien, il faut que ce fit, il se pressente avant de travailler, mais ensuite qu'il se confirme au fil du travail. Et à un moment donné, la responsabilité d'un coach, selon moi, c'est aussi de savoir dire stop si jamais ça ne s'avère pas être la bonne dynamique. En revanche, ça peut prendre un peu de temps pour dire stop, et moi ça m'arrive très très rarement, parce que le travail d'un coach, c'est justement t'aider à dépasser ces difficultés-là. Donc c'est jamais noir ou blanc, mais il y a un certain nombre d'étapes à franchir ensemble pour s'assurer que ça va pouvoir bien se faire, et ensuite se confirmer que c'est en train de bien se faire.
Ce que tu dis entre les lignes, c'est que ça s'adresse à tout le monde, le coaching visiblement, mais à quel moment est-ce qu'on doit, selon toi, se faire coacher, et une fois qu'on décide d'y aller, quelles sont les bonnes questions à se poser avant de démarrer son coaching?
Alors déjà, le à quel moment on doit se faire coacher, je pense que tout le monde à un moment donné devrait se faire coacher et en tirer quelque chose, c'est une évidence. Parce qu'encore une fois, la vie s'est fait de haut et de bas, et on passe tous par des phases de haut et de bas. Et pourquoi haut et bas? Parce que il y a le bas forcément où on est dans le dur et on a besoin d'aide, mais il y a aussi le haut quand on est peut-être, on peut perdre pied dans des moments très très prolifiques, et c'est important aussi de garder les pieds sur terre. Et donc que ça soit des très hauts ou des très bas, c'est intéressant d'être accompagné professionnellement pour tenir finalement dans la durée. C'est essentiel quoi. À quel moment il faut le déclencher? C'est quand on ressent ce besoin, tout simplement. Encore une fois, pour être bien coaché, il faut être coachable. Et la notion de coachabilité, en tout cas mes mots, dans mon esprit, c'est celle d'avoir ce besoin de transformer, d'avancer, de progresser sur quelque chose. Donc, tu peux avoir ce besoin-là parce que tu es dans une difficulté particulière, ou tu peux avoir ce besoin-là parce que tu as envie de rester au top niveau dans lequel tu as été. On reprend l'analogie d'un athlète. Il va faire des efforts pour devenir le champion qu'il a envie de devenir. Et puis, une fois qu'il est champion, ben, il va continuer à faire ses efforts pour le rester. Bon, ben, ça, en fait, à partir du moment où il y a cet état d'esprit, j'ai envie de te dire, c'est pas une question de seniorité, de profil, de localisation, de culture. C'est une question de mindset. Est-ce que j'ai envie de progresser dans ma vie? Est-ce que j'ai envie de grandir? Et si c'est le cas, ben, en fait, le faire avec un professionnel dont c'est le métier, ça va être la meilleure, le meilleur investissement que je peux faire pour atteindre, justement, mes objectifs. Après, le besoin, il est pas forcément clair. Tu vois, il faut vraiment rester dans « je sens que j'en ai besoin », mais le besoin n'est pas forcément clair. Et c'est d'ailleurs, c'est le début du travail avec le coach. C'est-à-dire qu'un très bon coach, à mes yeux, il doit justement, la première chose qu'il doit faire, c'est de clarifier ton besoin et de clarifier ton objectif. Et ça, c'est pas forcément simple à faire. Tu peux avoir des gens qui arrivent avec une idée extrêmement précise sur ce dont ils ont besoin, et parfois ils touchent juste, et à ce moment-là, ben, c'est une évidence d'aller dans le sujet qu'ils ont eux-mêmes identifié. Tu peux avoir des gens qui arrivent avec un besoin très très précis, je vais te donner un exemple juste après, mais qui en fait fondamentalement n'est pas le bon, et c'est déjà le premier travail d'un coach, c'est de lui dire « mais attends, tu te rends compte que tu es en train de me dire ça, et qu'en fait c'est et que tu as envie de travailler là-dessus, mais c'est pas forcément le bon sujet. » Donc par exemple, j'ai envie d'être beaucoup plus performant dans mon rôle, et en même temps, quand le client te raconte son contexte, il te dit « je suis crevé, j'en peux plus, j'arrive plus à respirer », ben, est-ce que le sujet de la performance, c'est d'en faire plus ou c'est d'en faire moins? Et donc, tu vois, c'est très important d'arriver aussi à bien définir le besoin du client. Donc, tu peux avoir une idée préconçue sur ce dont tu as besoin et en fait, te rendre compte dans le début du travail du coach, avec le coach, que ce besoin, il n'est pas tout à fait le même que ce que tu avais imaginé. Et un dernier exemple, c'est que tu peux arriver juste avec cette envie de bouger, tu sens qu'il y a un inconfort ou qu'il y a une idée, une envie latente, mais t'as pas bien su la définir. Et donc, bah, dans ce cadre-là, le premier travail que tu vas faire avec ton coach, c'est justement, mais c'est quoi finalement ton besoin? Qu'est-ce qui est fondamental pour toi? Et ça, c'est quelque chose que tu peux pas faire bien tout seul. Donc, c'est là où t'as besoin d'un accompagnement et avec quelqu'un qui a des points de repère très professionnels pour bien le faire.
Au niveau du choix du coach, ça a son importance. Est-ce qu'on choisit un coach parce qu'il est bon sur tel et tel sujet, ou est-ce qu'on choisit des coachs qui peuvent nous accompagner sur l'ensemble de j'allais dire de notre carrière, ou en tout cas est-ce que les coachs se présentent comme experts sur des sujets précis, ou un coach peut t'accompagner sur l'ensemble des thématiques en théorie?
Bon, ben ça c'est un point critique. Déjà, première réponse à ta question, tu l'as dit toi-même, c'est que il faut que tu sentes que le coach que tu as en face de toi et avec lequel tu vas travailler, c'est le bon. Que tu te sens bien. Donc, tu peux pas savoir s'il va être bon sur tout et dans la durée, mais tu peux savoir si c'est le bon pour le moment, tout de suite, maintenant. Et donc, pour bien le faire, la première chose à faire, ben, c'est déjà d'en rencontrer plusieurs. Moi, je pense que c'est une pratique essentielle d'en rencontrer un certain nombre de personnes et de se faire ses propres points de repère sur ce qu'on sent et ce qu'on sent moins. Et ensuite, à ta question, et c'est d'ailleurs pour ça que Wave existe, est-ce qu'il y a un coach peut t'accompagner dans la durée sur tous les sujets? Non, j'y crois pas du tout. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle Wave a émergé dans mon esprit et qu'on fait ce qu'on fait aujourd'hui, parce que ces limites-là que je vais te redonner, c'est des limites auxquelles même moi-même je me suis confronté dans ma pratique. Donc un coach, il a ses limites de disponibilité. Il est pas là tout le temps, alors que toi, en tant que client, t'en as vraiment besoin au moment où t'en as besoin. Un coach, il a ses limites de compétences. Il est pas omniscient. Ou en tout cas, ceux qui le diraient se tromperaient et faudrait faire très très attention. Tu peux pas tout savoir sur tout. Donc à un moment donné, forcément, tu vas passer par des sujets et tu vas avoir besoin de gens qui ont des compétences différentes. Un coach, il peut pas forcément t'accompagner dans la durée parce qu'à un moment donné, il y a une forme peut-être de confort ou de lassitude qui va se créer et qui fait que le coach qui a été très très bon pour toi à un moment donné, il est plus tout à fait aussi bon pour une autre phase de vie. Donc, je pense que ce qui est très important, c'est plus de s'engager dans une démarche où le coaching, de manière continue, ça veut pas dire de manière continuellement intense, sans pause. Ça veut dire dans une approche où vraiment tu peux le faire comme un accompagnement qui s'inscrit dans la durée, c'est essentiel. Et au cours de cette durée-là, si tu le fais notamment en live, ça va être très important de rencontrer différentes personnes parce qu'elles vont pas répondre aux mêmes besoins. Et c'est exactement ces limites-là qu'on cherche à dépasser avec Wave en faisant en sorte que tu sois pas bloqué ni par la compétence, ni par la disponibilité, par toutes ces limites aujourd'hui que le live, voilà, auquel on se confronte, quoi.
À quel moment tu te dis que ton coaching individuel, justement, one-to-one, en mode freelance, ne te suffit plus et que tu veux passer à la seconde et envisager de, finalement, presque de revenir de ton rôle de, parce que tu as été leader pendant pas mal de temps. En tant que coach, tu deviens finalement dans l'ombre. Et là, tu décides de te relancer dans une démarche de leader, d'entrepreneur. À quel moment ce déclic intervient?
Encore une fois, comme tout, hein, je te le dis, il n'y avait pas d'intention formée de mon côté. Je surfais avec les vagues de la vie pro et perso, et c'est venu parce qu'à un moment donné, j'ai été submergé de demandes. Ça, c'est un premier aspect. C'est-à-dire que comme le travail que je faisais avec les gens que j'accompagnais était a priori très qualitatif, ces gens-là m'envoyaient d'autres personnes. Puis c'était des pairs, c'était ensuite des direct reports et à un moment donné, moi je pouvais plus absorber. Premier élément. Deuxième élément, j'ai eu quelques expériences avec certaines personnes où je sentais que je justement tu as ces limites de disponibilité, de charge mentale, de compétences, je m'y confrontais moi-même et du coup j'ai eu envie, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Cette pratique de coaching professionnel, elle est clé, elle est extrêmement simple, saine. Tout le monde devrait pouvoir y avoir accès. J'ai en plus, de par ma vie personnelle, peut-être un rapport à la différence et à l'inégalité qui est très particulier. Et je me suis dit, je vois pas pourquoi en fait, seule une toute petite partie de la population pourrait se le permettre, notamment parce que c'est très très cher, le coaching. Et alors que cette pratique serait extrêmement saine. Et donc, si tout le monde pouvait se faire coacher professionnellement, ça serait certainement un positif pour le monde et ça aiderait beaucoup de gens. Donc, comme j'ai quelques compétences, en effet, entrepreneuriales, quelques compétences dans le domaine de la tech et que par contre, d'un point de vue coaching, j'étais pile dans ce que j'aimais faire et ce pourquoi je suis a priori très bon, je me suis dit, pourquoi pas proposer une nouvelle approche qui en fait fait converger toutes ces compétences que j'ai pour pouvoir le proposer à beaucoup plus de monde. Et c'est comme ça que c'est venu naturellement. Et en fait, je l'ai pas stratégisé. J'ai commencé à le faire tout simplement, quoi.
Et seul, d'ailleurs, tu t'es lancé seul dans cette aventure où t'es un co-founder parmi d'autres?
Alors, je l'ai fait seul pendant très très longtemps. J'ai bootstrappé les choses. Donc, tu vois, j'avais un JDoc, un Typeform, j'avais mes petits Excel, j'avais mes propres présentations Keynote et j'ai fait ça très longtemps tout seul. Et en effet, quand j'ai commencé à basculer dans l'élément tech, je suis pas un tech et je suis pas compétent pour créer des technologies avancées, complexes. Je me suis associé à un premier cofondateur technique avec qui finalement les chemins se sont séparés parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la même intention, vision des choses sur le sujet et manière de travailler, ce qui arrive très souvent. Mais j'ai continué à construire une équipe en effet autour de ce projet pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse avec Wave démocratiser l'accès au coaching professionnel. Et donc oui, maintenant j'ai une équipe, une petite équipe qui est faite à la fois de gens qui sont des spécialistes du coaching et d'ingénieurs qui sont spécialisés dans tout un tas de tech assez avancés.
Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la startup qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En 2 ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans 6 pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com, E-2-K-I-D-E-N. Bonne écoute!
Quelle est la vision de Wave? Parce qu'on en parle beaucoup, tu parles de démocratiser le coaching professionnel. Concrètement, si tu devais présenter Wave, quelle est la vision de cette plateforme?
Nous, on est en train de créer un nouveau standard du coaching qui doit être accessible à absolument tout le monde. C'est vraiment qui dit standard dit que ça doit permettre à tout le monde d'y accéder, mais ça veut pas dire que ça va être suffisant pour tout le monde. Donc l'idée, c'est pas de remplacer le live coaching auquel je crois beaucoup. T'as mentionné, tu as le coaching de groupe, le coaching live, tout ça c'est des super pratiques. Simplement, l'idée, c'est d'apporter un complément qui n'existe pas aujourd'hui et qui permet justement à tout le monde d'avoir une base de coaching très qualitative qu'il peut, il ou elle, s'approprier et se l'approprier dans la durée. Donc, le coaching de Wave, c'est d'avoir ton propre, ta propre intelligence de coaching, vraiment celle qui te correspond sur mesure. Quand tu travailles avec Wave, tu travailles avec Wave, et derrière Wave, il y a des coachs, il y a des scientifiques du coaching, il y a de la tech qui sont à ton service pour t'aider à être coaché dans la durée avec ce dont tu as foncièrement besoin au moment où tu en as besoin.
Ok, tu peux nous préciser, parce que on n'en a pas parlé, mais je crois que Wave est un coaching qui se fait à l'écrit, pour le coup, un peu en asynchrone, et pas dans des, et je crois pas, en tout cas, pas dans des sessions one-to-one.
Non, il n'y a pas de
live. Parler de l'expérience utilisateur et de ce que ça veut dire d'être coaché par, de rentrer en tant que, dans un process de coaching avec Wave.
Ouais, bon, Wave, c'est pas une application de coaching, c'est pas un live coach, c'est un mélange des deux à ton service. Donc, en fait, ça va passer par une app, derrière laquelle, encore une fois, il y a autant de coachs qui vont travailler pour toi et dont tu vas avoir besoin en fonction du sujet que tu travailles. Et mais simplement, pour que ça se produise, donc ce qu'on crée, c'est en fait une intelligence de coaching collective à ton service, il y a un certain nombre de choses qui vont se passer. Donc la première, c'est que quand tu travailles avec Wave, c'est tu vas déjà travailler dans un rapport qui est ultra confidentiel, parce que tout ce que tu partages et qui est en effet un coaching par écrit, donc on reviendra pourquoi sur la raison du pourquoi de l'écrit, on pourra en reparler, mais grosso modo tu vas rentrer en relation avec Wave par écrit. Tout ce que tu vas partager, déjà c'est la base, va être anonymisé, donc crypté. C'est ce que permet notamment le fait de partager les choses par écrit et d'utiliser de la tech derrière pour le faire, mais c'est que ton nom, ton prénom, le nom de ta boîte, les noms des gens que tu vas mentionner vont être automatiquement cryptés. Ce qui fait que toi, en tant que client, tu es le seul à avoir la connaissance de ce que tu es en train de partager et tu préserves ton jardin secret. En revanche, nous, ce que ça nous permet de faire derrière Wave, c'est te coacher en étant plusieurs cerveaux et pas juste un seul cerveau de coach, mais une multitude de cerveaux de coach à ton service. Ce qui fait que ton histoire, tes cas vont passer peut-être dans les mains de 5, 10 personnes en fonction justement de l'objectif qu'elle tient, mais sans que ces gens-là connaissent ton jardin secret, parce qu'ils connaissent pas ton prénom. Donc l'expérience ensuite, c'est quoi? Tu vas rentrer avec Wave, tu vas déjà commencer par poser un objectif. Pour poser un bon objectif et pour savoir où on veut aller, il faut déjà savoir où on en est. Donc il y a une première petite évaluation de ton contexte pro, perso, organisationnel, qui va te permettre de prendre conscience de là où tu en es. Je suis stressé à cause de ça. Je me rends compte que je suis incompétent sur tel sujet. Je me rends compte que j'ai pas confiance là-dessus. Je me rends compte que j'ai un problème d'interaction avec un tel. Peu importe. Tu vas prendre conscience de ton contexte et tu vas en définir un objectif. Cet objectif, Wave va te feedbacker dessus en fonction de ce que tu as partagé pour que vous puissiez vous assurer que vous êtes sur quelque chose qui a du sens, qui est atteignable aussi. Et vous allez, grosso modo, contractualiser ensemble sur le fait que, OK, on a un objectif clair, on sait d'où on part, on sait où on veut aller, et donc on va pouvoir commencer à travailler là-dessus. Donc ensuite, travailler là-dessus avec Wave, c'est de mettre en place une routine. Donc chaque semaine, à un moment, tu définis, ça peut être le mardi à 10h30, le vendredi à 6h du matin, ça dépend de ce qui est bon pour toi, c'est toi qui décides. Tu vas avoir une session de coaching qui t'est préparée par Wave et les gens qui travaillent derrière Wave pour toi, et qui va te faire rentrer dans une méthode qu'on appelle le RIDE. Le RIDE, c'est pas juste un joli mot, c'est une méthode qu'on a où le R veut dire reflect on something, le I veut dire investigate with others, le D veut dire do and deliver something, et le E veut dire elevate. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un objectif, tu reflect dessus, j'en suis où, qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui va pas. Tu vas investigate, donc ça veut dire que tu vas explorer où sont tes points de blocage. Tiens, mais alors si je suis stressé, c'est peut-être pas finalement à cause du boulot, mais c'est plus parce qu'il se passe un truc à la maison sur lequel je me sens pas bien. Tu vas do and deliver something. Ça, c'est très important dans l'approche qu'on a. On pense qu'on est ce qu'on dit, mais on est surtout ce qu'on fait. Donc Wave va te mettre en action et te proposer un exercice, une expérience, quelque chose à faire, une production. Donc, t'es stressé, qu'est-ce que ça serait, par exemple, de tester une certaine méthode. T'es, par exemple, t'es dans un problème de communication ben on va te dire tiens t'as du mal à communiquer en groupe parce que dans une réunion d'équipe je sais pas tu prends tout le temps la parole, ben qu'est-ce que ça serait pendant 2 heures de te taire complètement et d'observer à quel point dans quel état ça te met. Et donc en fait c'est ça du coaching. Donc tu vas faire des choses et en fonction de ce que tu vas vivre, de ce que tu vas expérimenter, ben il y a des choses qui vont se passer et on va te demander de prendre du recul et l'éveil. Et donc tu vas faire ça en boucle continue chaque semaine à l'intensité que tu veux. Donc il y a cette session mais ensuite il y a autant d'interactions que tu veux tout au long de la semaine, et progressivement tu vas voir comment tu progresses, tu vas visualiser ça parce qu'on le dataifie, donc tu vas avoir tes courbes de progression, on va aller chercher du feedback à l'extérieur, et puis à un moment donné bah, tu vas atteindre ton objectif, et quand tu l'as atteint bah, on va recommencer. Qu'est-ce que c'est le prochain objectif, qu'est-ce que tu veux? Alors pour certains ça va être de ok là j'ai vachement bien travaillé, j'ai envie de faire une pause, ok on fait une pause, ou pour d'autres ça va être j'ai tout de suite envie d'enchaîner sur autre chose parce que j'ai réalisé lors de mon précédent objectif que j'en avais un autre qui était encore plus important. Et donc, en fait, on va être dans cette boucle continue où, quel que soit ton objectif, on va pouvoir t'accompagner. Est-ce que c'est une réponse, un peu longue, mais est-ce que c'est clair?
Ça t'inspire? Ouais. C'est très clair. Donc, plutôt coaching individuel pour l'instant. Ça m'intéresse de comprendre la place de la tech dans tout ça, parce que je me posais la question, est-ce que Wave fait intervenir des coachs qui existent vraiment, ou est-ce que c'est finalement un ensemble d'éléments automatisés, et voilà quelle est la part de l'humain derrière et de la tech. Et finalement quand je t'entends parler de data et de justement de feedback et de qu'est-ce que la tech te permet de qu'est-ce qu'elle t'apporte en fait, la tech dans ce projet-là, et sur quels aspects en fait la tech intervient?
Ouais, c'est très important de démystifier ça, et notamment de démystifier ce qui serait le AI de Wave de l'AI. Il y a un principe qui est assez important, qui est le principe de Moravec, et qui dit, grosso modo, l'humain fera toujours mieux que la machine sur un certain nombre de choses, par exemple, l'intention, la vraie empathie, la compréhension fine de ce dans quoi on s'engage et pourquoi on s'y engage. Et la machine fera toujours mieux que l'humain sur d'autres éléments qui sont des éléments de process, jouer avec une multitude de données. Et nous, c'est exactement ce qu'on fait. Donc, quand t'es coaché par Wave, t'es pas coaché par une machine, t'es pas coaché par un bot, t'es coaché par des vrais gens, des humains, mais qui sont empowered par de la tech. Et donc, concrètement, ce que ça veut dire, ben, c'est que, justement, pour qu'on soit toujours là au meilleur moment pour toi et qu'on soit en mesure de t'amener les meilleurs insights sans être bloqué par la compétence unique d'un seul coach, ben, on va avoir des process en interne, donc là déjà c'est une première chose, c'est ce que la tech permet, des process en interne qui nous permettent du coup de travailler sur ton cas, et comme je le disais, de manière totalement confidentielle, c'est là où tout ce que tu partages est crypté, anonymisé, donc ça c'est un autre élément qu'apporte la tech, et qui nous permettent de faire quoi ? Ben, de travailler avec des méthodologies de coaching qui pour le coup, elles, sont développées par des coachs, nous on les appelle des scientific coachs, parce qu'en fait, on a modélisé et on travaille continuellement avec tout ce que sont les meilleures techniques, stratégies, tactiques, exercices de coaching, et qu'on choisit spécifiquement en fonction de ton contexte, aussi de ton historique. Tu as été coaché une fois, tu as été coaché 10 fois, tu es déjà passé par ce sujet ou pas. Et donc, en fait, tout ça, la tech permet à quelqu'un qui est derrière l'écran pour toi, derrière Wave, ben finalement de se poser moins de questions sur ce qui est pas foncièrement très important et de se concentrer pour le coup complètement et uniquement sur ce qui est clé, c'est-à-dire t'apporter le bon insight, faire en sorte que on soit vraiment dans une empathie. Tout ce qu'on fait, c'est de l'ultra sur mesure en fait. Donc c'est toujours une réponse telle que celle que tu pourras avoir si tu avais quelqu'un en face de toi. Simplement, tu vois pas cette personne, et oui, ça se passe aujourd'hui par écrit. Un jour, il y aura de l'audio, il y aura de la vidéo, mais pour l'instant, ça ne se fait que par écrit. Mais en aucun cas, ce sont des chemins automatisés. C'est toujours du finalement un humain et un coach qui suit. Il y a des opérateurs, il y a des coachs, encore une fois, des scientific coachs qui travaillent pour toi derrière pour t'apporter ce dont tu as besoin. Simplement, ils sont outillés d'une manière qui n'existait pas jusqu'à présent et que la tech permet et que l'intelligence artificielle permet, parce qu'on peut appeler beaucoup plus vite certaines variables, certaines choses pour s'assurer qu'on t'apporte quelque chose qui a du sens, qui est meaningful pour toi, quel que soit ton sujet, quelle que soit l'heure à laquelle tu en as besoin.
Ok, et on doit se poser la question aujourd'hui d'aller voir un coach physique ou potentiellement aller voir la plateforme Wave, ou pour toi les deux enfin le Wave peut remplacer cette expérience physique-là?
L'intention, ça n'a jamais été de remplacer. L'intention, ça a été encore une fois de donner accès à absolument
de démocratiser
à la pratique du coaching. Donc pour moi, je le vois plutôt comme une base. C'est un standard à laquelle auquel tout le monde peut avoir accès, qui te permet, tu vois, comme encore une fois, si on reprend l'analogie du sport de haut niveau, un athlète, il fait ses gammes, il fait ses répétitions, il arrive par lui-même à un moment donné à se dépasser. Et là, en fait, Wave, c'est t'es pas tout seul, t'es pas par toi-même, t'es Wave qui est continuellement à tes côtés. Et ça fait très très bien le travail que ça doit faire, parce que tu vois, on a plus de 8 personnes sur 10 qui recommandent qui recommande Wave après avoir fait un travail avec Wave. On a plus de on a 87% des gens qui ont atteint leur objectif, on a plus de 90% des gens qui disent que Wave a eu un impact pro ou perso très positif sur eux. Donc ça fait très très bien ce que ça doit faire. Simplement, évidemment, à un moment donné, pour certains, ça va pas être suffisant. Et ça va pas être suffisant parce que il y a des gens qui, à un moment donné, vont avoir un besoin très spécifique. Live, ils vont en ressentir le besoin. Donc, je sais pas, par exemple, t'as envie d'avoir un coaching sur le media training. Bon, bah, tu peux avoir détecté ce besoin et commencer à travailler sur un fil rouge là-dessus avec Wave, mais à un moment donné, t'as peut-être envie pendant 3 semaines de faire un travail très spécifique avec quelqu'un qui serait un spécialiste de ce sujet. Et bah, c'est très bien. Nous, le sujet, on est dans une approche totalement inclusive par rapport à ça. Et ce qu'on apporte fondamentalement à travers ce standard, c'est que il y a ce que tu veux, mais il y a ce que tu peux. Et encore une fois, le coaching, c'est très cher. Quand t'es tu as des pratiques qui sont entre 200 et 500 euros de l'heure et qu'il faut faire beaucoup d'heures, ben ça veut dire qu'il faut un certain budget et qu'il y a très peu de gens qui peuvent se permettre ça.
Tu factures comment et comment ça se passe au niveau du plan d'abonnement?
Ben nous, c'est très simple. C'est 99 euros par mois, en illimité, tu vas être coaché par Wave. Et donc, c'est là où, tu vois, on n'a pas la prétention de dire qu'on remplace. Par contre, on a cette mission qui nous anime tous les jours et qui est celle de dire on complète, on permet à tout le monde, grand dirigeant ou tout junior qui commence sa carrière, tu as à ta disposition cette solution de coaching professionnel et qui prouve ce qu'elle sait faire aujourd'hui, parce qu'encore une fois, de la love client, on en reçoit tous les jours. Et ce qui nous touche, hein, tu vois, moi, c'est ce qui m'anime. Tous les jours, on reçoit des témoignages des clients par lesquels Wave, avec lesquels Wave travaille, et qui nous disent mais merci, j'ai lu telle ligne, ça m'a touché, ça m'a fait pleurer parce que t'as touché juste. Donc, c'est vraiment très important de comprendre qu'on est dans quelque chose d'extrêmement qualitatif et qu'on peut le faire parce que justement on utilise la tech dans des proportions qui n'ont jamais été faites comme ça et qui nous permettent de proposer ce prix d'une manière très singulière.
Il y a un mot sur lequel je t'avais trouvé assez prudent sur la notion de scaling. Pourtant, ça a été ton métier pendant un temps. Ça te vient d'où ce côté, de la prudence et peut-être même ce rejet parfois du mot scaling?
Parce que je trouve que c'est un mot un peu galvaudé, où on en fait, tu as une intention qui est pas toujours bien ajustée, ou comme s'il fallait faire les choses très très vite. Pour absolument scaler, etc. Et c'est vrai que je n'aime pas ce mot. Pour moi, c'est une conséquence. C'est-à-dire, tu fais un travail de qualité et tu fais très très bien ce que tu sais faire. Oui, il y a une conséquence qui va être que ça va scaler. Moi, je préfère parler, tu vois, dans en tout cas ce qui nous concerne, d'être vraiment dans cette intention de démocratiser. Donc, est-ce que ça scalera ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'intention, c'est celle-là, c'est de donner accès au plus grand nombre à cette pratique qui est saine, et de le faire avec cette intention continue de faire de la qualité. Et en fait, ça primera toujours sur le reste, à savoir notamment la quantité et vite. Ça doit être une conséquence si jamais tu proposes quelque chose de qualitatif. Et donc, c'est pour ça que je m'en détache, tout simplement. Parce okay. que ça a été un peu trop marqué par différentes choses et différentes aventures qui ne me parlent pas. C'est pas comme ça, en tout cas, qu'on envisage notre métier.
Ok. Un autre mot sur lequel j'aimerais bien t'entendre, c'est au niveau de la communication. Parce que ça m'a interpellé, mais toi, t'as souvent été sous les radars et pourtant t'étais hyper connecté et assez assez visible. Quand on en parlait ensemble en 2019-2020, tu voulais justement rester dans l'ombre. Je crois que tu as fait ton premier post LinkedIn il y a 4 mois, si je dis pas de bêtises, il y a 4-5 mois, ce qui est quand même assez original pour quelqu'un qui est aussi connecté que toi. Tu t'es bien rattrapé depuis, mais ça vient d'où cette envie de discrétion, peut-être de l'époque, qui a été contrebalancée par une com que j'ai trouvé bien orchestrée pour le lancement de Wave. Alors tu me diras, on a besoin dans un projet entrepreneurial comme celui-là de bien gérer la com, mais ça m'a interpellé cette balance.
Ouais, je comprends. Non, mais moi je suis quelqu'un de très discret par nature. Je travaille, je suis un travailleur de l'ombre. Je me mets à disposition des gens. C'est toujours été comme ça que j'ai fonctionné. Notamment quand j'étais coach indépendant, oui, j'ai travaillé avec beaucoup de gens, notamment dans la French Tech. Ils se reconnaîtront s'ils écoutent, mais j'ai jamais eu besoin et notamment envie de dire quoi que ce soit, parce que mon sujet c'est pas de briller, c'est de faire briller les autres, et ça m'intéresse pas en fait. Encore une fois, tu vois, parler pour parler, c'est quelque chose qui j'ai pas une envie de le faire. Par contre, faire les choses, ça c'est vraiment ce qui m'anime dans la vie. Et donc j'ai toujours eu cette posture où j'ai pas cherché et je ne cherche pas à communiquer. En revanche, pourquoi à un moment donné on a communiqué un peu plus, c'était pas une envie de ma part, c'était même un effort, mais c'est un effort que mon équipe m'a demandé à un moment donné, parce que ils me disent mais attends, mais on fait des trucs géniaux, on a des clients qui sont hyper satisfaits et personne ne connaît ce qu'on fait, faut que tu parles, faut que tu dises ce qu'on est en train de faire. Donc j'ai à juste titre et donc je l'ai fait. Je le fais à ma manière. Si tu parles de ma première communication LinkedIn, je pense qu'elle a été assez originale, parce que si tu veux, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent une vidéo comme ça avec un keynote fait à la main, mais c'est pas grave en fait. Sincèrement, je vais le dire aussi simplement que ça, c'est je m'en fous, parce que le sujet c'est de rester très cohérent avec ce qu'on est et ce qu'on veut. Et après, je pense que dans cet exercice de communication, c'est un exercice continu, donc c'est un exercice dans lequel je rentre un peu plus. Parce que on a des choses à raconter et on doit les raconter très différemment pour que ça soit plus compréhensible ce qu'on fait, parce que ce qu'on fait c'est très innovant, c'est très nouveau, c'est à la fois dans une industrie qui est émergente, le coaching, comme tu as à travers tes questions tu l'as très bien souligné, il y a beaucoup de confusion autour de ce que c'est, donc déjà en soi tu vois, être dans cette industrie ça demande un effort de pédagogie, mais en plus dans cette industrie nous on a une approche qui est très particulière, qui est très très innovante pour les raisons que je t'ai évoquées. Et donc oui, ça va demander de communiquer plus, de communiquer mieux, parce que si on veut vraiment démocratiser cet accès, ben faut qu'on en parle. Et donc c'est ce que je commence à faire un peu plus, c'est ce que tu me permets faire aujourd'hui notamment.
Mmh. Et avec cette nouvelle casquette d'entrepreneur que tu avais eu il y a quelques temps, toi, c'est quand même différent d'être CEO de sa propre boîte avec toutes les galères que ça peut représenter et l'ensemble des challenges que tu dois aborder. On parlait de communication, mais ça va être de la finance, du management, du recrutement et autres. Comment tu l'abordes cette casquette de CEO de ta propre boîte après, avec l'expérience que tu as
et avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'engagement, beaucoup d'énergie. J'ai eu un moment de transition qui était particulier et qui a pas été facile pour moi, parce que j'ai été passionné par mon métier de coach, par accompagner ces personnes-là, et oui, passer d'une dynamique où t'es seul et t'es au service des autres en tant qu'indépendant, à une dynamique où tu construis un projet avec une équipe, ou notamment, parce que tu vois, derrière Wave ça a été moi très longtemps, donc il y a un moment donné il faut que ça te dépasse. C'est une dynamique très particulière où quand t'as été toi-même, le service ou le produit, on utilise le mot qu'on veut, et qu'il faut que ça te dépasse. C'était passionnant comme phase. C'était pas forcément simple à faire. Et donc là, j'ai appris plein de choses. Et à ta question, ma réponse, c'est encore une fois, ça s'est fait naturellement. J'ai appris énormément de choses en le faisant. Donc quand t'apprends, en tout cas pour ce qui me concerne, ça me passionne encore plus. Et aujourd'hui, oui, je retrouve des points de repère que je connais et qui ressemblent beaucoup à ce que j'ai pu faire pendant 15 ans. Où mon sujet maintenant, c'est de faire en sorte que ce projet qu'on a et qui est un positif pour le monde aille là où il doit aller, grandisse. Et donc, c'est une posture que je connais, qui est très très différente et qui me plaît tout autant, parce que encore une fois, ce sur quoi on passe notre temps, c'est fondamentalement et foncièrement ce qui est ma passion, c'est-à-dire le développement professionnel, le développement personnel, le développement humain à travers cette pratique du coaching professionnel pour beaucoup plus de monde. Donc, c'est same, same, but different. C'est-à-dire que finalement, je m'y retrouve, mais sur une posture un peu différente. Voilà.
Et le sujet de l'équilibre vie perso, vie pro, qui a été un de tes combats pendant quelques temps, c'est compatible avec une vie d'entrepreneur?
Ouais, et je pense que il faut, tu vois, c'est un chemin de vie, ça demande de développer une certaine maturité, et que tu peux pas inventer, c'est parce que tu vis les choses qu'à un moment donné, tu trouves tes points de repère. Moi-même, je me fais coacher, tu vois, par Wave. Donc, ça m'aide à avoir mes ancres. Et mes ancres et mes essentiels, j'en démords pas. Donc, j'ai fait des choix de vie, notamment pour avoir des moments et du temps avec mes enfants, ma famille. C'est très important. Donc, il y a des moments, je suis très rythmé pour faire en sorte que je ne fasse aucun compromis sur certains moments clés qui sont essentiels dans la vie. Et en même temps, je suis très sérieux sur le projet qu'on a. Et donc, j'y engage le temps et l'énergie nécessaires. Et c'est une question, en effet, de rythme et d'équilibre. Et je m'y retrouve parfaitement, tu vois. Je suis heureux dans les deux aspects. C'est faisable. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Et ça se fait notamment parce qu'à un moment donné, je pense sincèrement que tu as fait un travail d'introspection, tu te connais très très bien, tu sais ce dont tu as besoin, tu sais ce que tu veux pas, tu sais aussi utiliser les expériences du passé, et en restant humble, mais sans fausse humilité, je pense que je suis passé par un certain nombre de choses qui font que je suis assez solide sur le sujet, et je sais très clairement comment j'ai envie de gérer les deux, et je crois y arriver plutôt bien.
Il y a des habitudes ou des routines ou des actions que tu fais qui te permettent de décompresser et de justement passer d'un monde à un autre et de faire un temps de qualité en dehors de et sans être immergé constamment dans ton monde pro.
Ouais, y en a bien sûr. J'ai plein de routines. Je peux t'en donner quelques-unes. La première, c'est d'avoir justement un rythme très millimétré. Tu vois, d'ailleurs, c'était le nom de ma boîte quand j'étais coach en enfance, c'était millimétreur. Donc, je suis millimétré, c'est-à-dire que je commence à un moment donné, je m'arrête à un autre et je fais pas de compromis là-dessus. Il y a des routines qui sont celles d'être coaché. Donc, je le redis, on peut pas être sérieux sur ce qu'on fait sans être nos propres clients. Je suis mon premier client et Wave m'aide à garder mes ancres, à garder mes essentiels, à pas oublier ce qui est important pour moi, à me challenger aussi quand y a des moments je peux un peu perdre du recul sur certaines choses. C'est normal, hein, ça arrive à tout le monde. Donc c'est pour ça que je crois à ce qu'on fait, c'est que moi-même j'en bénéficie. Et puis j'ai des routines évidemment de sport. Après certains ça va passer par autre chose. Moi j'ai besoin de physiquement m'animer, m'activer. Donc très souvent voilà, je bouge. Je suis pas tout le temps devant mon écran, loin de là, et parce que c'est des sas de décompression, c'est des sas où tu t'aères et c'est des moments de pause aussi. Et la pause, c'est super important. C'est comme un athlète de haut niveau. Si tu passes ton temps à faire des exercices, à un moment donné, tu vas te blesser. Et pousser plus, ça va être contre-productif. Donc, moi, je sais mettre des moments d'arrêt et de pause parce que ça me réoxygène. Et du coup, j'aborde les choses avec une énergie qui est très différente et une lucidité qui parfois que tu peux perdre, mais que je retrouve très, très rapidement. Et ça, c'est un travail, j'ai envie de te dire, pas juste hebdomadaire, c'est quasiment quotidien en fait.
Ok, cool. Un mot sur l'équipe, parce que toi, vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe Wave?
On est 30.
Une trentaine, parce que déjà une belle équipe. On parlait tout à l'heure de l'expérience de tes clients. Je crois que tu es assez sensible aussi à l'expérience de cette équipe, justement. Et je repense à un message que Mika Touyo, un des anciens product designers chez toi, avait communiqué. Il parlait de Wave comme étant une des meilleures boîtes pour l'expérience employée en full remote. Mm-hmm. Et je me demandais comment tu l'avais abordé, ce projet, sur le plan humain, dans justement l'expérience que tu avais envie de faire vivre à tes équipes. Au-delà d'être une des boîtes qui paye le mieux, je crois que ça avait été communiqué par Figure il n'y a pas longtemps, mais tu t'es fait remarquer là-dessus. Quelle est la vision que tu as dans la construction de cette équipe et dans l'expérience de cette équipe?
Alors déjà, l'équipe, c'est tout, quoi. On n'est rien sans les autres. On construit rien sans une équipe qui est engagée, heureuse de vivre ce qu'elle fait, qui est là pour les bonnes raisons. Je suis très, très attentif à ça et ça a toujours été le cas. Et évidemment que on construit ce projet collectivement. Quoi.
Ça se traduit comment ?
La première chose, c'est d'avoir une vision très très claire sur ce qu'on veut faire, donc démocratiser le coaching professionnel. Ça, c'est le point le plus extrême. Où est-ce qu'on veut aller en 2050 ? Voilà, on va coacher un maximum de personnes et on va démocratiser le coaching professionnel. Ça, tout le monde l'a en tête. Et la deuxième chose, c'est le deuxième point, c'est quoi que tu fasses, c'est quoi tes ancres ? Ben nous, tu vois, on a des valeurs que j'ai posées dès le début. Et en fait, avec ce que je peux te donner, hein, c'est Watch the Horizon, Ride Big and Great Vibes Together. Ce que ça veut dire, c'est on veut des gens qui entrent. Tu vois, avant de parler du projet, du produit, de machin, c'est juste on veut aller où et qu'est-ce qu'on va vivre, quoi qu'il se passe, dans ce qu'on veut vivre ensemble. Et donc, le Watch the Horizon, c'est moi, je veux des gens qui ont la capacité à prendre du recul sur les, jeux, sur les choses, qui sont dans une approche globale, qui... prennent la diversité comme une richesse, qui sont dans un respect profond des uns et des autres et aussi de ce qui compte sur Terre, dans la vie, pour les gens. Donc ça, c'est un premier élément. Quoi. On part pas de tête baissée, on garde les essentiels. Pourquoi on est en train de faire ça ? Watch the horizon. Ride big. On est là pour faire un projet qui est un projet très ambitieux, qui est très complexe. Il y a beaucoup de complexité dans ce qu'on fait, pas juste technique, opérationnel, à plein de niveaux. Donc, il faut des gens qui sont prêts à s'engager et qui sont là, au-delà d'être là pour les bonnes raisons, qui y vont, quoi. Et qui, sont structurés, sont aussi dans une forme d'agilité et sont capables de jouer entre ces deux équilibres. Et puis, Great Vibes Together, ça aurait quel sens de passer autant de temps à travailler ensemble si on n'y prenait pas du plaisir, si on s'amusait pas. Donc concrètement, tu vois, comment on vit ça en remote ? Ben oui, on est en remote. Moi, c'est remote first parce que ça a été aussi la genèse de ce projet. Hein. Je te l'ai dit, j'ai ces raisons personnelles qui fait que je me déplace très très peu souvent. Je travaille de chez moi, c'était un prérequis de travailler en remote. Et donc il y a des gens qui adhèrent à cette envie de travailler en remote. Donc j'ai des gens en Espagne, en Italie, en Belgique, un peu partout en France. Ils vivent ce qu'ils ont envie de vivre au mieux de ce qu'ils ont envie de vivre. Par contre, c'est pas parce que c'est remote first que c'est remote only. Et donc, évidemment que l'échange de phéromones, à un moment donné, il est clé. Donc, chaque trimestre, on se retrouve 3-4 jours, tous ensemble, pour vivre ce qu'on a envie de vivre, créer du souvenir, se réaligner, se connaître. Tout ça, c'est extrêmement important. Et quand tu as un mix et un hybride entre les deux, il se passe des choses assez incroyables qui sont que tu peux avoir les meilleurs talents où qu'ils soient dans le monde, intentionnés par les très très bonnes choses qui sont la vision de ce vers quoi tu veux aller et la manière dont on veut le vivre à savoir nos valeurs, et qui du coup, au quotidien, travaillent vraiment avec finalement ces deux points de repère clés. Et après, en remote, ça demande des techniques, des méthodologies, notamment pour s'aligner, pour travailler ensemble, qui sont assez particulières, qui demandent à être inventées et réinventées régulièrement. On n'a pas la prétention de savoir comment le faire parfaitement. Par contre, on a quand même un équilibre assez intéressant sur la manière dont on le fait, clairement.
Et les outils que vous utilisez au quotidien pour justement vous réaligner et assurer une bonne communication malgré la distance ?
C'est assez simple. Hein. Déjà, on passe du temps en visio, évidemment. Donc un petit J-Meet, c'est largement suffisant. Ensuite, on a évidemment des outils beaucoup plus synchrones, mais la culture de l'écrit chez nous, elle est essentielle. On documente, c'est essentiel parce qu'on fait un projet complexe et qu'on a une approche d'ingénieur. Donc, on écrit les choses, on les revoit, on les change sur une base écrite. Et donc, cette base écrite, il y a un aspect qui est synchrone, qui est par exemple Slack. Si tu as besoin de communiquer rapidement, c'est un outil qui est très puissant pour ça. Et asynchrone, donc typiquement Notion, où on documente énormément de choses et on peut travailler sans se déranger, en respectant le rythme des uns et des autres. Et le rythme, d'ailleurs, c'est un autre outil qu'on a, c'est qu'on a un rythme collectif qui est très, très particulier. C'est-à-dire que y a des points de repère communs sur ce que c'est d'avoir, par exemple, des plages qu'on appelle des deep focus, qui font que pendant 2-3 heures, en fait, t'as un silence radio sur ces outils-là, parce que tout le monde est concentré sur ce qu'il a apporté lui-même. Et puis, à un moment donné, dans la journée, il y a d'autres moments qui sont plutôt des vraies réunions d'équipe, mais sur des choses où les choses ont été préparées en amont. Je t'ai parlé de l'écrit, on utilise aussi des préparations avec Loom, par exemple, etc. Voilà. Donc, on essaye de reproduire à notre manière, en remote tous les outils dont tu as besoin pour bien communiquer. Et puis ensuite, tout n'est pas tourné que sur le professionnel. Donc, c'est le dernier élément de réponse que je pourrais te donner. Mais on a plein de moments ensemble dans la semaine. Donc, c'est vraiment des rythmes hebdomadaires où on passe des bons moments ensemble. Tu vois, tous les mercredis, début d'après-midi, on a une demi-heure pour jouer ensemble, typiquement. Donc, on joue pendant une demi-heure. Voilà.
Bien. Ben, merci pour ces insights, Adri. C'était bien cool de t'entendre. On passe à la phase un peu qui va terminer l'échange, mais qui sera un peu plus orientée sur des questions perso, un peu plus rapide aussi.
Ouais.
On commence par la première, c'était quelle est la plus grande fierté pour toi jusqu'ici dans ton parcours?
C'est de pas avoir perdu mes essentiels. Et donc, d'avoir su continuer à travers les hauts et les bas que la vie t'amène, d'avancer et de le faire, je pense, d'une manière saine et avec une intention qui est toujours de proposer du positif pour juste de manière égocentrée, du positif pour le reste du monde. Ouais.
Est-ce qu'il y a un truc essentiel que tu aurais fait différemment si tu l'avais réalisé plus tôt?
Voilà, tu sais jamais, hein, donc j'ai envie de dire pas vraiment, mais ce que je pense qui est clé, c'est de toujours justement écouter ceux qui ont une phase, on parle souvent des anciens, tu vois, et quand finalement ils arrivent un peu au crépuscule de leur vie, ce qu'ils te disent, ce qui est important, ben, je pense que c'est important de pas oublier qu'on est la vie est courte et que faut pas se tromper de ce qui compte véritablement dans sa vie. Donc c'est pas que je l'ai pas fait, c'est que je le referai. Voilà. Et je pense que c'est très important, même si tu perçois pas tout de suite au moment où on te le dit ce qui t'est partagé et ce que ça veut vraiment dire, ben de le garder dans un coin de sa tête, ses conseils des anciens. Et de continuellement essayer de les remettre à jour en fonction de ce que tu vis.
Est-ce qu'il y a une boîte qui t'inspire particulièrement en ce moment, dans son exécution, dans sa vision peut-être?
Franchement, c'est une question trop difficile parce que je pense qu'il y a des projets absolument incroyables sur tellement de sujets à plein de niveaux. Donc non, j'ai plus envie de te répondre. Il y en a aucune et quasiment toutes. Ce que je trouve absolument essentiel, c'est que encore une fois. La notion d'entrepreneuriat, de créativité, elle soit soutenue, elle soit poussée. Et ce qui est essentiel, c'est que les gens qui rentrent là-dedans, et c'est pour ça que tu vois, je crois aussi au coaching professionnel, ils le fassent en étant très conscients de ce qu'ils font et qu'ils soient drivés par les bonnes raisons, pour les bonnes raisons. Ce monde en a besoin. On vit dans un monde qui est quand même très challengé, que ce soit au niveau écologique, économique, où les points de repère vont changer. Et ça va être absolument critique qu'on ait des « thoughtful leaders ». Et je pense que tout le monde peut être thoughtful. Et donc, si tout le monde se pose un peu plus les bonnes questions maintenant sur pourquoi il est en train de faire les choses, quelle est la véritable intention, qu'est-ce qui l'anime vraiment, et c'est ce à quoi sert le coaching professionnel notamment, et ben on a cette force. Et moi, je suis un ultra positif et enthousiaste du genre humain. Et ben cette force du genre humain, ça va être de dépasser ces difficultés. Donc, aucune boîte, toutes. À partir du moment où elle se pose les bonnes questions maintenant, et notamment les leaders qui drive ces boîtes se posent les bonnes questions tout de suite en faisant un travail sur eux.
En parlant de leaders, t'en as croisé un paquet. Est-ce qu'il y en a certains qui t'ont marqué, des rencontres qui t'ont marqué dans la vie et que tu pourrais partager?
Ah, écoute, là c'est pareil, sans nommer qui que ce soit, parce que oui, il y a énormément de gens qui m'ont inspiré. Qu'est-ce qu'un leader? C'est ça la question que j'ai envie de t'envoyer. Et un leader, c'est pas forcément un leader d'une boîte et d'une industrie, il y en a plein. Il y a aussi ceux que j'ai pas rencontrés, mais que j'ai rencontrés indirectement à travers des lectures, des vidéos. Et puis, il y a des leaders de vie, tu vois, qui sont des gens totalement inconnus et qui pourtant sont extraordinaires parce que, à l'échelle de ce qu'ils font au quotidien, ils apportent énormément au genre humain. Et donc, je pourrais te citer personne parce que ils sont trop nombreux. Et la question, c'est quoi être un vrai leader? Et il y a des leaders, c'est ceux qui sont des gens inspirants, et il y en a beaucoup qui m'inspirent.
Donc tu retournes mes questions sous forme de questions, donc je vois là l'âme du coach qui prend le dessus.
C'est pas pour détourner, c'est vraiment tu vois, c'est vraiment authentiquement ce que je peux te répondre.
Mais,
là.
Mais très bien. Est-ce qu'il y a des outils? On en a parlé un peu des outils, mais est-ce qu'il y a des apps, des outils au quotidien qui t'aident à être plus productif, toi?
Mon agenda. Ça, c'est critique pour moi. Je te parlais de rythme tout à l'heure. C'est une matière vivante, c'est-à-dire qu'elle vit tous les jours, toutes les semaines, mais elle a ses points de repère. C'est-à-dire que j'ai tout le temps, voilà, je suis très, très, très calé, parce qu'encore une fois, Tes journées font 24 heures. C'est hyper important de dormir, tu vois, ça fait partie des outils aussi, dormir, c'est hyper important. C'est hyper important d'avoir des sas de décompression. Et donc, en fait, moi, je cale tout parce que si tu veux tirer le maximum de ta journée, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, ben, c'est important d'être structuré dans cette journée. Et donc, mon agenda, il est absolument clé, c'est une encre pour que je puisse vivre professionnellement et personnellement ce que j'ai envie de vivre.
Donc, tu te mets des contraintes et tu construis autour de tes contraintes.
Je me mets, c'est pas des contraintes, je me mets un cadre qui me permet d'avoir la liberté dans ce cadre. Donc, par exemple, je sais que là, je vais avoir un moment d'échange avec toi et juste derrière, j'ai un moment de travail très particulier sur une problématique. Ça va commencer à un certain moment, ça va se terminer à un certain moment. J'ai des petits buffers entre. Je vais rentrer dans ce cadre en étant pleinement présent et en me concentrant pile là-dessus et en effet en suivant ensuite ma cadence. Et cette cadence, évidemment, il y a des aléas dans tes journées, dans ta vie, dans ton quotidien qui font que tu le réajustes, mais au moins, tu le fais consciemment. Je subis jamais le temps, en fait.
En dehors de Wave, d'ailleurs, qui doit se transformer en app, est-ce qu'il y a une app dans ton tel que tu recommanderais à tout le monde d'avoir?
Écoute, ça va pas être très...
Original?
Je sais pas si c'est original ou pas, mais en fait, si tu veux, moi, j'utilise, en parallèle de Wave, j'utilise Notes, pour me marquer tous les matins des petites pensées positives pour moi-même. Voilà, donc voilà, c'est pas très forward thinking peut-être, mais tu vois, par exemple, la notion d'écrit, et je te parle de notes sur mon téléphone, mais en fait, tu vois, je t'en montre un autre, c'est juste j'ai un carnet. J'aime bien l'aspect manuscrit dans un monde digital. Je trouve que c'est important de retrouver aussi un peu de contact physique avec un crayon et un papier. Donc, tu vois, c'est peut-être celui que je te partagerai là.
Bon, mon carnet. Est-ce qu'il y a une personne dans le monde de la tech ou d'innovation ou de l'entrepreneuriat même que tu me recommanderais d'avoir à ce micro qui a un parcours qui mérite d'être partagé à un plus grand nombre?
Écoute, il y a plein de gens. J'ai plein de noms qui me viennent en tête. Moi, je trouve, je pense à lui là, pour une raison très particulière, hein, qui lui appartient, mais Firmin Zocchetto, de Pfit. C'est quelqu'un d'incroyable, qui a un parcours professionnel exceptionnel, qui est quelqu'un d'exceptionnel, je trouve. Et je trouve qu'il a beaucoup de choses à raconter et il a la maturité de quelqu'un qui aurait fait beaucoup, beaucoup de chemin. Et en même temps, il ne faut pas oublier l'âge qu'il a aujourd'hui et ce qu'il a construit. C'est assez, je trouve, exceptionnel. Mais franchement, j'aurais pu en citer énormément d'autres.
Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné qui s'avérait très utile dans ton parcours jusqu'ici?
Ouais, qui est une phrase que j'ai au quotidien, qui est une phrase que mon père m'a toujours répétée. C'est « l'important n'est pas... » et qui est une phrase d'Épictète. « L'important n'est pas ce qui t'arrive, mais ce qu'on en fait. » Voilà. L'important n'est pas ce qui arrive, mais ce que tu veux en faire. Et quoi qu'il y arrive, tu peux en faire quelque chose.
Est-ce qu'il y a un son ou une musique en ce moment que t'écouterais en boucle?
Oh là là, il y en a plein. Je suis un gros, gros fan de musique. Tu vois, je suis en train de regarder ma...
Ta playlist, c'est les derniers...
Ma playlist. Écoute, j'aime beaucoup. Là, vraiment, j'en ai tellement... Écoute, il y a l'album, le dernier album de Grand Corps Malade, Ben Mazuet et Gaël Faye que j'aime beaucoup. Et dedans, il y a de très très belles chansons très inspirantes. Si je t'en donne une parce que je trouve qu'elle fait vraiment partie du coaching. C'est Xavier Rude. Alors, je sais plus comment elle s'appelle, mais je crois que c'est We Deserve to Dream. Je trouve que c'est des paroles de coaching qu'il y a dedans. Et donc, j'aime bien.
Bon, c'est noté. Tu peux nous dire quelque chose sur toi que les gens seraient surpris d'apprendre?
Écoute, c'est des très bonnes questions. Hein. Tu vois, je les ai pas préparées. Donc, j'ai fait une réponse comme ça. Écoute, je suis tatoué. Voilà. Okay. Et pourquoi? Parce que je te le dis, le rapport au corps. Mais j'en ai pas beaucoup. J'en ai un qui est une phrase, un mantra de vie que... j'ai découvert justement au fil de mon travail d'introspection et qui est une de mes encres. Donc ce mantra, je le garde pour moi, mais je me le suis fait tatouer pour jamais l'oublier. Ouais.
Bien. Est-ce qu'il y a une habitude que tu essayes de prendre ou au contraire d'arrêter?
Une habitude que je veux reprendre, c'est que j'avais une routine où je me levais tous les matins et je commençais ma routine par faire du yoga. Voilà, je faisais 10 minutes de yoga, tu vois, pas long. Voilà, et je le tenais tous les jours et ça me faisait un bien incroyable et j'enchaînais ça avec 5 minutes de méditation. Et en fait, c'est une pratique incroyable, puissante, mais, et c'est vrai, comme toute routine, c'est difficile parfois de la tenir. Et donc, je l'ai tenu pendant très longtemps, ça m'a fait beaucoup de bien. Là, mon rythme s'est un peu décalé, et donc, en tout cas sur le matin, et donc ça, j'ai envie de le reprendre. Voilà.
Ok. Tu peux nous donner un bouquin qui t'a particulièrement marqué?
Il y en a énormément. Celui qui me vient en tête, parce que je viens de le relire. Voilà, il n'est pas forcément toujours facile à lire, mais ça s'appelle « Surfer la vie » de Joël de Ronet, qui est quelqu'un d'incroyable pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, il y a un monsieur qui a beaucoup d'expérience de vie, qui était quelqu'un qui a amené le surf, notamment en France, qui a été un grand champion du surf, mais surtout qui a travaillé aussi au MIT et qui explique et qui fait une analogie entre ce que c'est ce que le surf est et ce que la vie est finalement, et avec une approche qui est à la fois très légère et en même temps très très scientifique. Et je trouve ce bouquin passionnant.
Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui a envie d'avoir le même parcours que toi, ça serait lequel?
Ça serait ride your wave, c'est-à-dire prends les choses, tu sais pourquoi tu y vas, tu sais là où tu veux aller, mais tu peux pas savoir tout à l'avance. Donc prends le mouvement comme il vient, vas-y, et puis de toute façon ça va pas être une seule vague. C'est retourne-y, recommence, et recommence, et recommence, et recommence, mais avec la bonne intention, avec la notion de plaisir, avec la notion d'envie. Le fais pas pour d'autres raisons. Et les choses viendront et se décanteront. On a toujours, notamment dans des moments de difficulté, la notion de la difficulté, mais en fait, ce qui est très intéressant et ce qui l'est beaucoup plus, c'est qu'est-ce qui se passe après cette difficulté. Et en fait, c'est le rebond post-traumatique, ou le rebond post-difficulté pour entrer dans des choses moins lourdes, il est incroyablement puissant à partir du moment où on embrasse ce mouvement très simplement.
Bon, et bien sur ces bonnes paroles, on va s'arrêter là. Merci beaucoup Adri pour les échanges.
Merci à toi.
Pour ces partages et bravo pour ce parcours.
Ben, merci beaucoup à toi Jeff et merci pour ce que tu fais, parce que ça l'est tout autant. Voilà.
Bon, bah t'es sympa, je prends ça comme un compliment venant de toi. Merci beaucoup et à bientôt.
Salut.
Ciao Adri.
Ciao.
Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à suivre le compte Innovation Leader sur LinkedIn et Instagram, mais pensez aussi à vous abonner à notre newsletter sur innovationleaders.live pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve dans 2 semaines. À très vite.